Alors, Bezrat Hashem, la parasha cette semaine, c'est parashat Beshalach. Et à la fin, on va parler aussi d'Alachot concernant le bénédiction Brachot, parce que le dimanche prochain, c'est un Tu Bishvat, la fête Tu Bishvat. Alors, on va parler quelques lois concernant cette fête. Alors, parashat Beshalach commence par un mot qui, selon certains commentateurs, ne signifie pas une chose qui est bien. Ça commence par le mot Vayihi. Vayhi Beshalach Paro et Ta'am, et il était quand Paro envoya le peuple. Velonacham Elohim Deheres Plishtim, et Dieu ne les a pas fait passer par la terre de Pélistin. Kikarovu, car c'est un terrain qui est trop proche. Kiamar Elohim, Peninachemam Birotam Milchama, Veshavu Mitzraima. Alors Dieu il dit, j'ai peur que le peuple regrette, et ils vont faire un demi-tour, et ils vont retourner en Égypte. Le Talmud nous dit une règle. Chaque fois que c'est écrit Vaïhi, et il était, ceci signifie quelque chose de pas bien qui va arriver. L'exemple que vous connaissez tous, c'est Vaïhi Bimé Achashverosh. Et il était au temps d'Achashverosh. Au temps d'Achashverosh, nous savons qu'il y avait un décret de tuer et anéantir tout le peuple juif. Ça Vaïhi Bimé Shvot HaShoftim. Et il était à l'époque des juges. À l'époque des juges, le peuple jugeait le juge. Au lieu que le juge donne le décret, c'est le peuple qui a jugé le juge. Alors ici aussi, Vaïhi Bishalach Paro, et il était comme Paro, envoyait le peuple. Mais le Midrash se pose la question, qui c'est qui a dit ce mot? Qui c'est qui a dit Vaïhi? Et le Midrash nous donne deux possibilités. Première possibilité, Paro, le pharaon. Pourquoi? Il est en train de perdre 3 millions de travailleurs. 3 millions de juifs sont en train de quitter l'Égypte. Il n'y aura personne pour travailler. Il n'y aura personne qui va bâtir le pays. Le pays est complètement détruit. Alors, Vaïhi, il a dit, why, ça veut dire malheur. Malheur, le pays détruit, et voilà, les ouvriers, ils sont en train de quitter le pays. Ça, c'est la première opinion de le Midrash. Deuxième opinion, Vaïhi Beshalach Paro, qui c'est qui a dit why, qui c'est qui a dit malheur, Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu dit malheur? Au contraire, vous êtes en train de sortir. Parce que Beshalach Paro est à âme, car Paro est en train d'accompagner le peuple. Et à la sortie, Paro nous accompagne, et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez, l'Égypte, c'est toujours votre pays. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Et quand vous voulez, vous pouvez toujours retourner, on vous donnera des droits comme tous les citoyens. Ceci va faire un grand problème à Moshe Rabbeinu. Parce que le moindre des problèmes qu'il y aura dans le désert, qu'est-ce qu'il dit chaque fois? Ah, on retourne en Égypte. Il n'y avait pas d'eau, on retourne en Égypte. Il n'y avait pas de la viande, on retourne en Égypte. N'importe quel problème, toujours ils ont dit, on retourne en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le parachute? Bah, l'autre, dans l'autre parachute. Ah, on se rappelle de marmites de viande qu'on mangeait en Égypte. On se rappelle qu'ils mangeaient de toutes sortes de légumes et de l'ail, toutes sortes de choses. Mais Rachid dit chaque fois, de quoi vous parlez? Ils vous ont donné à pain de la galette. Ils leur ont donné même pas du pain à manger en Égypte. Pourquoi? Pour que la galette reste plus longtemps dans leur système digestif. Mais le fait que Paro a laissé ce bon goût à la sortie, ça a donné espoir au peuple. Et pourquoi? Parce que le juif, c'est un peuple qui oublie. C'est un peuple qui pardonne et il fait passer une nouvelle page. La Gemara dit, tout celui qui ne pardonne pas, il faut questionner s'il fait partie du peuple juif. Ça veut dire quoi? Il y a une histoire dont le prophète, que le premier roi d'Israël qui s'appelait Shaoul, lui il a un jour il a poursuivi David, le roi David, et dans sa poursuite malheureusement il y avait un incident qu'il a dû tuer toute une ville. Il a tué une ville qui s'appelait Nov. Et cette ville c'était une ville de Kohen, que le Kohanim habitait cette ville. Mais non, ce Kohanim, ils ont été servis par un peuple qui s'appelait Givonim. Qui était le Givonim? Les Givonim étaient un peuple que Yoshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, a accepté, il les a convertis, mais malheureusement, ils ont triché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Yoshua a commencé la conquête d'Israël, il a commencé à prendre une place après une autre, les Givonim, qui étaient en Israël, se sont déguisés. Ils ont pris des tuniques déchirées. Ils ont pris de vieilles sandales. Ils ont pris du pain moisi. Et là, il vient chez Yoshua. Ils lui disent, tu sais, on a tellement écouté sur le peuple juif qu'on a envie de se convertir. Vraiment, votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Vraiment, votre peuple, c'est le peuple choisi. Toutes sortes d'histoires. Yoshua dit, pourquoi pas? s'ils voulaient nous joindre, pourquoi pas. Alors il leur a juré de ne pas leur faire du mal. Le lendemain, Yoshua apprend, ce peuple-là fait partie du Canaanite. Le Canaanite auquel Akosh Bukhou a donné l'ordre de tuer et de prendre leur pays. Là, Yoshua, il est mal pris. Il ne peut rien leur faire parce qu'il a juré. Il ne va pas annuler son serment. Alors il leur a puni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis tous comme des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et ceux Givonim ont travaillé à Nov, cette ville de Kohen. Malheureusement, quand Shaoul il a tué le Kohanim, ceux Givonim n'avaient plus de Parnassa. Ils pouvaient plus, ils n'avaient plus quoi faire. Alors il y avait beaucoup qui étaient en famine, des familles qui étaient en, ils n'avaient pas du pain à manger. Là, il y a une période difficile pour le peuple d'Israël après le décès de Shaoul. 3 ans de famine. Il y a pas le peuple en entier, il souffre de famine. Et David Améler qui fait des prières, il demande à Hachem pourquoi, montre-moi le pourquoi, quelle est la raison, est-ce que je peux réparer quelque chose? À la fin, Hachem se dévoile à lui, il lui dit, sache qu'il faut que tu demandes au Givonim qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer devant moi, et je suis obligé de punir le peuple. Tant qu'eux, ils ne sont pas satisfaits, moi je suis obligé d'écouter leurs prières. Alors David Améler, il demande au Givonim, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Shaoul Améler, il a laissé 7 enfants. Tu nous donnes les 7, on va leur pendre. Et c'est rien qu'on va pendre les enfants de Shaoul, qui a enlevé notre Parnassa, c'est là qu'on va se calmer. Il dit, comment vous allez tuer des enfants innocents? Ils ne vous ont rien fait, c'est le père. Mais le père est déjà décédé dans une guerre. Pourquoi vous allez vous venger des enfants? Ils ont dit, c'est ça qu'on veut. David retourne chez Hachem. Hachem lui dit, écoute, moi je te dis, tout ce qu'ils veulent, tu es obligé de respecter parce que je ne peux pas ne pas accepter leur prière. À la fin de l'histoire, c'est Shaoul a été obligé de prendre les 7 enfants de Shaoul, leur donner entre mains, et malheureusement, les 7 ont été pendus. C'est ça? Là, la Gemara dit, regardez combien de temps ils ont gardé une rancune contre Shaoul. Et ils se vengent de qui? De ses enfants qui n'auront rien fait. De là, la Gemara apprend, tout celui qui est rancunier, tout celui qui ne pardonne pas, même si la personne t'a fait n'importe quoi, et à un certain point, tu oublies. Si tu n'arrives pas à oublier, il faut vérifier dans tes annales. Peut-être tu n'es même pas juif. Peut-être tu fais partie de ces givonim. Le peuple juif n'est pas comme ça. Le peuple juif pardonne toujours. C'est pour ça que, avec toute la souffrance, toute l'oppression qu'il y avait en Égypte, qu'est-ce qui arrive à la fin? Paro leur donne le bon goût à la sortie. Il leur dit, c'est votre pays, vous êtes le bienvenu. Mon cher Rabbeinu crie malheur. Pourquoi? Je sais que ceci va me donner beaucoup de problèmes dans le désert. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors voilà, ils sont en train de sortir. Ils n'écoutent pas Paro, ils vont quitter. Et ils sont en chemin. Paro, selon Rashi rapporte le Midrash, envoie des messagers avec le peuple. Toujours, quand Moshe parlait à Paro, qu'est-ce qu'il lui dit? Laisse-nous sortir travailler le Dieu 3 jours. 3 jours, on va travailler Dieu. On ne sait pas quels services on doit faire. Est-ce que c'est des sacrifices? On ne sait pas quoi faire. 3 jours, on va sortir, on va revenir. Ceci, c'était rien qu'une porte d'ouverture pour qu'ils le laissent partir. Ils ont montré la méchanceté de Paro, que même pour 3 jours, il ne voulait pas leur laisser partir. À la fin, à la 10e plaie, qui est Makat Bechorot, Paro ouvre les portes de l'Égypte, il leur dit, sortez d'ici. Mais il a toujours espoir qu'il revienne. 3 jours plus tard, il envoie des messagers, et voilà le 3e jour, dit Rashi. Quand le messager demande au peuple de revenir en Égypte, le peuple leur dit, il n'est pas question, on est des hommes libres, on ne retournera jamais en Égypte. Et là, le messager retourne chez Paro le 4e jour. Et ils vont faire un chemin de 4 jours en 2 jours. Ça veut dire le 4e jour, ils retournent chez Paro. C'est une route de 4 jours. Ils vont retourner en 2 jours. Et Paro se prépare le cinquième jour. Le 6e jour, il va parcourir après le peuple. Il va les attraper. Et voilà, les deux camps se trouvent un camp en face de l'autre. Les Hébreux d'un côté, les Égyptiens de l'autre côté. Et qu'est-ce qui arrive? Hachem fait descendre un nuage. Et le nuage va séparer les deux camps. D'un côté, c'est l'obscurité pour les Égyptiens. De l'autre côté, c'est la lumière pour les Hébreux. Et le lendemain, Hachem enlève les nuages. Mais ceci, après que Moshe a ouvert la mer, ça, le peuple est en train de passer. Les nuages s'enlèvent. Les Égyptiens commencent à courir après les Hébreux dans la mer souffle. Et voilà le grand miracle. Le dernier qui sort de l'autre côté est tous les Égyptiens sont noyés dans le Yamsouf. C'est pour ça qu'il y a cette belle chanson dans la paracha, Az Yashir Moshe, et c'est à cette époque que Moshe et tout le peuple a chanté à Kosh Baruch. Donc, maintenant on va voir que le peuple lui-même, le jour que Paro était en face, ça veut dire ce sixième jour, que le deux camps étaient un en face de l'autre, le peuple s'est divisé à quatre groupes. Il y avait quatre groupes dans le peuple. Un groupe qui disait, on va sauter dans la mer. On n'a rien à faire. La mer, ce n'est pas ouvert encore. La mer s'est ouverte que le matin. Tôt le matin, la mer s'est ouverte. Mais toute la nuit, la mer ne voulait pas s'ouvrir. Il y a toute une discussion entre Moshe Rabbeinu et la mer pour que la mer s'ouvre. La mer, rien à faire, ne veut pas s'ouvrir. Il y en a un groupe dans le peuple qui disent, vous savez quoi? Pas d'espoir, on saute dans la mer. On se jette dans la mer. Ils vont tous mourir, hommes, enfants et femmes. Mais ils vont mieux mourir que de retourner en Égypte parce qu'ils vont leur tuer. Premier groupe. Deuxième groupe. Non, on est assez fort. On est 3 millions contre 600 soldats. 3 millions contre 600, c'est beaucoup. Alors on fait la guerre. N'ayez pas peur. On fait la guerre et on va gagner cette guerre. C'est le deuxième groupe. Troisième groupe. Non, on ne peut pas risquer ni un enfant qui va mourir dans cette guerre. Alors dans ce cas, on retourne tout gentiment en Égypte. On va lever les mains, on va dire à Pharaon, on s'excuse, on a fait une erreur et on retourne en Égypte. Et le quatrième groupe qui dit, non, on va commencer à crier et rien qu'en criant, on va leur faire peur à tout ce camp de Pharaon, 600 soldats, et ils vont se sauver. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive à la fin? On a quatre groupes. Un groupe qui dit, il faut sauter dans l'eau. L'autre groupe qui dit, il faut faire la guerre. L'autre groupe qui dit, il faut retourner en Égypte. Le quatrième groupe qui dit, il va crier. C'est ça? Et Moshe répond dans la paracha, Moshe répond à tous les quatre groupes. Il leur dit, non, vous voulez sauter dans la mer? Ityatsez-vous, mettez-vous sur place, personne ne saute. Je ordonne que personne ne saute. Vous voulez faire la guerre? Hachem ilachem lachem. C'est Hachem qui vous fera votre guerre. Vous voulez crier? Je ne vous laisse pas. Pourquoi? Ve'atem tacharishun. Vous devrez garder le silence. Vous ne devrez même pas dire un mot. Et le quatrième groupe qui disait on retournera en Égypte, Moshe leur dit l'otosifolirotam, vous allez jamais voir les Égyptiens à tout jamais. Interdit de leur voir, interdit de retourner dans ce pays. À la fin, qu'est-ce qui arrive? La mer s'ouvre et tout le monde passe. La question est-ce qu'ils ont pensé qu'il y a une possibilité comme ça? Non, parce qu'ils ont tous désespéré. C'est pour ça qu'ils sont divisés. Toute la nuit, il y avait du vent, mais la mer n'a pas bougé. La mer ne voulait pas bouger, plutôt. À la fin, vers la matinée, quand il n'y avait plus d'espoir, et ils voient doucement, doucement, le nuage est en train de se lever pour que les deux camps se mettent un en face de l'autre. Quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'il y a? Hachem. Hachem dit, passez, maintenant vous allez passer. Quand vous avez perdu l'espoir, c'est là que la délivrance va venir. Et ils descendent, le dernier va passer, et tout le peuple va être sauvé. Veut dire, selon le commentateur, que l'espoir... vient, ça veut dire la délivrance vient des fois quand la personne est déjà désespérée. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai demandé, il n'y a rien à faire et c'est là que la délivrance vient. Il y a une histoire avec un rabbin en Israël, il va collecter pour une yeshiva. Alors il va au Mexique et il connaît une famille là-bas chez qui il allait plusieurs fois, il était aubergé là-bas et c'est là-bas, il tournait, de là-bas il avait plusieurs contacts. Il a le téléphone de la famille, il a tout ce qu'il faut. Voilà, ils s'embarquent dans l'avion. Et dans l'avion, vous savez, ils donnent le petit papier pour remplir pour la douane. Votre nom, votre numéro de passeport, tout ce qu'il faut. Maintenant, il reçoit le papier en anglais. Mais lui, il ne connaît pas, il ne sait pas beaucoup d'anglais. Alors il dit, je ne sais pas comment remplir. Il regarde dans l'avion, il n'y a pas de juifs. Alors il a dit, c'est sûr qu'en arrivant au Mexique, il y a plein de juifs au Mexique. Arrivant à l'aéroport, je trouverai quelqu'un qui va m'aider à remplir le papier. Il arrive là-bas, pas de juifs. Alors il a dit, ça doit être quand je vais arriver guichet, je vais trouver un juif parce que la dernière fois qu'il était aux États-Unis, il y avait 45 minutes d'attente. Alors il dit, c'est sûr, dans la ligne, je vais trouver quelqu'un. Il arrive là-bas, c'est vite, lui doit passer. Maintenant avec le papier, il a peur, il a dit, je n'ai rien rempli, ils vont me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors il vient, il s'excuse auprès d'une madame qui travaille là-bas. Il lui dit « No speak English ». Alors il ne parle pas l'anglais. Elle croyait qu'il parle anglais. Alors elles n'ont plus parlé l'anglais, alors elle dit, va là-bas, va là-bas. Quand vous ne pouvez pas le servir, elle dit, va de l'autre côté. Il va chez un autre monsieur, un autre officier là-bas, il dit, no speak English. L'autre, il croyait aussi qu'il parle l'anglais, alors il ne savait pas le parler l'anglais, alors il dit, va, ok. Alors lui, il dit, mais attends, j'ai le cellulaire, je vais appeler. Il commence à appeler la famille où est-ce qu'il s'auberge, mais ça ne répond pas le cellulaire. Alors il dit, je vais appeler la famille. Il appelle la famille, il y a la bonne qui répond, bueno, quién es? Et lui, il dit, Itzhak. Elle lui dit, no está. Elle n'a rien compris. Alors lui, il est désespéré. Il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai passé déjà deux officiers des douanes. Le cellulaire ne répond pas. Je n'ai pas rempli mes papiers. Qu'est-ce qui va arriver? On lui fait un signe. Allez, avance. Il faut que tu passes. Alors il passe dans le troisième. Il lui dit, no speak English. Alors l'autre officier lui dit, attends, mais d'abord, ivrit. L'autre, il dit, mais comment? Il dit, oui, alors il dit, viens, je te remplis. Il lui a rempli. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je travaille à la douane. Il dit, mais j'ai jamais pensé que quelqu'un comme vous va travailler. Il dit, voilà. Est-ce qu'on pense comment Hachem il trouve la solution? La solution vient quand on est désespéré. Le téléphone n'a pas répondu. Lui, il savait, j'ai déjà envoyé des officiers. Et voilà, il a trouvé quelqu'un qui parle hébreu en Mexique dans la douane. C'est ça? On ne sait jamais. Donc, alors maintenant, ce qui arrive. Et au peuple d'Israël, il descend dans la mer. C'était une chose très difficile. Pourquoi? Vous savez, dans la mer n'est pas nivelée. Plus que tu descends, plus profond que ça devient. Des fois, il y a de grandes profondeurs, il y a des montées, on ne peut pas voir parce que la mer est couverte. Mais là, la mer s'est ouverte. Et on voit que la terre. Ils sont en face à terre. Hachem ne voulait pas leur faire souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il égalise. Il va niveler toute la terre. Maintenant, on sait qu'ils sont rentrés dans 12 canaux. Ça veut dire que la mer s'est ouverte en 12 morceaux. Ce n'est pas un seul, deux morceaux qui sont ouverts. Ça veut dire que chaque tribu a dû passer dans le canal qui a été tracé pour elle. Maintenant, il y a des familles avec des enfants. Ils ne peuvent pas voir, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voir un l'autre. Ils commençaient à avoir peur. Peut-être nous, on rentre, on peut sortir, et les autres, qu'est-ce qui va arriver? Hachem fait que tous les murs de l'eau deviennent transparents. Qui puissent voir un l'autre et ne pas avoir peur de passer dans cette mer. Des bébés qui commencent à pleurer. Qu'est-ce que la mère va se mettre à leur allaiter? Hachem fait un miracle. Il y a comme du lait qui sort de ces fontaines d'eau. Des gens qui avaient soif, ils ne pouvaient rien prendre de l'eau et boire. C'est de l'eau de mer. Ils sont très, très salés. Ils pouvaient boire. Il y a des fruits qui poussent sur le mur. Le Me'am Loez, il décrit 50 miracles qui sont produits pour quelques minutes de traversée. Quand ils ont traversé, ils n'ont pas passé d'un côté à l'autre. C'était 12 demi-cercles. Chaque tribu rentrait dans un cercle. Ça veut dire que la première tribu était très chanceuse, parce que le cercle était petit. C'est la dernière tribu de Dan qui est rentrée dans le 12e cercle, qui était très très grand. Mais à la fin, ils sont tous sortis en même temps. Un miracle en lui-même. Il y avait plein de miracles qui sont produits. Et pourquoi Hachem fait tout ça? Alors on va expliquer. On retient cette question et on va voir à la sortie, quand ils sortent, ils vont commencer à louer et chanter à Kadosh Baruch Hu. Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Le miracle dans cette chanson, c'est 3 millions de personnes qui vont chanter la même chanson sans préparation. Normalement, une maîtresse à l'école, elle prend les enfants 2 mois, elle commence à leur chanter, répéter non, pas comme ça. Ici, tu as 3 millions de personnes qui vont chanter à Kadosh Baruch Hu la même chanson, le même mot, sans préparer. Et comment ils savaient quel mot il faut dire? Un miracle. Ils étaient inspirés. Il y avait une inspiration divine et ils vont chanter. Maintenant, ils vont sortir dans un désert. Pas d'eau, pas du pain, pas de. Bon, il y avait des fruits qu'ils ont pris, mais ils n'ont pas pris des provisions. Maintenant, ils se sont débarrassés des Égyptiens. Mais ils commencent la vie maintenant. Ils sont des gens libres. Mais comment tu vas t'occuper des femmes, des enfants et tout ce qu'il y a sans provision? Le prophète nous dit, Hachem est émerveillé par le peuple qui a eu la foi complète en Hachem. Un père de famille qui sort avec tous ses enfants, comme ça. Alors on va voir d'abord combien d'enfants il y avait. Regardez un commentaire sur la paracha de Rabbi Yonatan ben Uziel. C'est écrit au début de la paracha, Vachamushim alu bnei Israël meretz Mitzrayim. Explication de Rashi. Rashi, là, quelques commentaires. Hamushim veut dire le peuple d'Israël est monté armé. Ils ont pris des armes, des épées, tout ce qu'il y avait comme d'armes, parce qu'ils sortent dans le désert. Il y aura des peuples qui vont essayer de leur attaquer. La première guerre à la fin de cette paracha, c'est Amalek. Comment ils vont se battre contre leurs ennemis sans outils, sans rien? Alors, Hamushim veut dire ils sont sortis armés. Autre explication de Rashi. Hamushim, ils sont sortis un cinquième du peuple est sorti. Hamushim, ça veut dire Mohamesh, 5. Un cinquième est sorti. Veut dire 3 millions de personnes, mais combien sont morts? 12. On a dit, là, le cours dernier, que dans la plaie de ténèbres, il y a 12 millions de juifs qui ne voulaient pas sortir. Ils étaient déjà bien. Ils sentaient déjà confortables en Égypte. Hachem a dit, tout celui qui ne veut pas sortir est obligé de mourir. 12 millions ont péri en Égypte.
Mais personne n'est resté là-bas en Égypte?
Non, personne. Ou mort, ou vivant sorti. Personne n'est resté. Malheureusement, 12 millions ont préféré de mourir en Égypte. Et en 3 jours de la plaie de ténèbres, le peuple a enterré tous ces 12 millions. C'est ça? Maintenant, ça c'est la deuxième explication. Alors, un cinquième, 3 millions représentent un cinquième du peuple. C'est de 15 millions. C'est ça, 3 millions, c'est de 15 millions. La traduction de Yonatan, qui est une traduction très vieille, explique, Vachamushim, chaque famille est sortie avec 5 enfants. Chaque famille est sortie avec 5 enfants. Maintenant, là-dessus, il y a tout un commentaire, des commentaires. Le Targum Yonatan, c'est un commentaire, mais là-dessus, il y avait beaucoup. Comment tu dis que chaque famille avait 5 enfants? Est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi ce n'est pas possible? Si vous remplissez un peu d'Agada ou un peu de Midrash, c'est écrit que chaque accouchement en Égypte, c'était minimum 6 enfants à la fois. Alors, il ne peut pas dire 5 enfants, il fallait qu'il dise 6. Pourquoi il a dit 5? De là, tout le commentaire, ils ont des différents avis. On va choisir un. Un des commentaires, il dit la chose suivante. En moyen, ils ont fait comme un sondage. Le meilleur sondage à faire en Israël, c'est à Bnei Brak. Ça, tu prends l'endroit de religieux. Alors, tu fais un petit sondage. En moyen, ça veut dire, quand on dit moyen, combien d'accouchements une femme peut faire? Ça veut dire, elle restait bien avec dans sa peau. Statistique, en Israël, 9. 9 accouchements. Il y a des familles, hein? Et c'est pas beaucoup. On parle en moyen. Ça veut dire, il y a des familles en Bnei Brak, ils ont 13, 15, bien avant. Moi, je connais... Moi, je ne vais même pas dire son nom. Je connais quelqu'un. Hein. Une fois, je l'ai rencontré au Mexique. Il a 17 enfants. Bnei Brak, 17. L'année d'après, je le rencontre et quelqu'un me dit, mais tu as entendu qu'est-ce qu'il a fait? Je dis non. Il me dit, il a divorcé sa femme. Il dit, 17 enfants, pourquoi? Il dit, sa femme ne voulait plus avoir des enfants. Alors lui, il voulait encore avoir des enfants. Il a divorcé pour marier une autre, pour avoir des autres. Et en Bnei Brak, Bnei Brak, il y a, quand vous sortez Shabbat dans la rue Bnei Aynara, Ben Porat Yosef est pleine de enfants. Plein de enfants. Mais ils ont dit en moyen c'est 9. Oui, si ça, c'est, je ne rentre pas, il, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un de la rue. C'est quelqu'un de très. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a demandé une question en Rabbanim, c'est pas quelqu'un qui a décidé comme ça lui-même. C'est, je vous dis, c'est quelqu'un de très très bien. Je ne sais pas si c'est mitzvah, j'espère que le cas ne va jamais se présenter devant moi. Le cas s'est présenté à Bnei Brak, il y a des plus grands rabbanim là-bas. C'est un cas particulier, mais rien que pour vous dire. C'est ça, si Chas v'Shalom ne peut pas. Il a les droits, ce n'est pas une mitzvah, il a les droits. Maintenant regardez, la statistique dit, en moyen, une femme accouche 9 fois, en moyen. Maintenant, faites le compte. Alors, 9 accouchements, mais on dit que ce n'est pas moins que 6. 9 fois 6, ça fait 54. Vous voulez faire le rabais? Alors, 9 accouchements, 6 enfants à la fois, minimum, on va dire, prends le minimum. C'est 54 enfants par famille. Ok? Par famille. Maintenant, regardez, c'est pas fini, attendez, restez jusqu'à la fin. Vous avez 4 cinquièmes du peuple qui a péri. Ça veut dire dans un voisinage, chaque 5 voisins, malheureusement 4 voisins, le père et la mère sont morts. Hachem n'a pas puni les enfants parce que les enfants n'étaient pas autonomes pour dire oui ou non, on veut sortir ou on ne peut pas sortir. Rien que ceux qui étaient, le père et la mère, qui étaient en droit de sortir ou pas sortir, sont morts. Alors, sur 5 voisins, vous avez 4 couples qui sont morts. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ces enfants? Le voisin et la voisine les ont adoptés. Alors, on parle de 54 enfants, bli aïnara, par maison, fois 4. C'est ça? 50 fois 216, c'est ça? Plus la famille elle-même avait 50. Avec 54, ça fait 270. Ça veut dire que chaque famille est sortie combien? 270 enfants. Vous pouvez vous imaginer un peu? Alors maintenant, regarde. Maintenant, regardez. Regardez, ils sortent sans provision, sans de l'eau, sans rien. Ils sortent comme ça. Et le Targoum, il attend, il dit, ils sont sortis avec 5 enfants. Ce n'est pas 5 enfants. Avec 5 familles. Chaque famille contenait 5 familles. Maintenant, imaginez-vous un père et une mère. Prenez une situation, pas dans le désert. 270 enfants à la maison. Imaginez-vous une mère qui essaye de faire le souper. Alors, elle a Baruch Hashem, le père est shohet. Alors, il n'y a pas... Oui, on va. Le père est shohet, il n'y a pas de problème de viande. Alors, le premier jour, le père apporte le poulet. Et la mère le fait bien, comme il faut, épicé, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui arrive à 270 ans à ma table? Vous avez jamais vu un mariage que tout le monde sent content? Ah, quelle viande c'est ça? Ah, ce chip, c'est... Pourquoi il a payé ça? Alors, 270 enfants. Maman, je ne veux pas ça, je veux du lait. Moi, maman, je veux du steak. Et l'autre, pourquoi tu l'as fait rôtir ce... Moi, je l'aimerais bouilli. Et l'autre, 270 opinions à table. N'importe qu'est-ce que la mère va faire, il y aura toujours des plaintes. Mais là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis sans rien. Alors, il n'y a pas de souper, ni de petit déjeuner, ni rien. Alors, Hachem, il descend dans la mer, il leur fait sortir. Il a dit, maintenant, il faut que je m'occupe de tout ce peuple. 270 enfants par famille, il faut s'en occuper. Dans la paracha, un cadeau du ciel. La manne. C'est quoi le cadeau? La manne, c'est des boules de neige, soi-disant. C'est des petites boules de neige qui tombent dans le désert. Bien sous forme hygiénique. Pas comme aujourd'hui, tu vas tout le monde. Il y a d'abord la rosée qui tombe dans le matin. Il y a la rosée qui couvre le sable. La manne tombe sur la rosée. Et après, il y a une autre couche de rosée. Ça veut dire qu'elle est drachidi dans une boîte. Quand tu arrives le matin, dès que le soleil commençait à monter un peu, la première couche du rosé est montée, tu trouvais la manne. Mais toujours en bas, il y avait la couche de rosé pour que la manne ne touche pas le sable. Ce n'est pas comme les fraises. Tu manges des fraises, tu as le sable dans la bouche. Ça, la manne était pure et propre. Maintenant, quand je vous leur dis cadeau pour vous, c'est quoi le cadeau? Vous voyez des boules de neige comme ça? Vous mettez dans la bouche. Tout ce que vous voulez, vous goûtez. Tu veux du poulet farci? Rien que tu penses. Tu penses, tu le mets dans la bouche, tu as du poulet farci. Tu veux un steak, un bon steak grillé sur du charbon? Tu as le steak grillé sur le charbon. Tu veux de la crème glacée? Tu as de la crème glacée. Tout ce que vous voulez, vous goûtez dans la manne. Pourquoi? Il faut contenter maintenant 270 enfants, donc par famille. Et la mère va se rendre folle? Non. À quoi je vous dis, moi je m'en occupe. Toi, tu t'es occupé de 4 voisines, malheureusement, qui sont morts. Qui sont morts en Égypte. Tu t'en occupais de mes enfants, moi aussi je m'en occuperai des tiennes. Alors 270, tous nourris chaque jour. Le matin, la manne descendait une fois par jour, une portion pour le matin, une portion pour le soir. Tout le monde content, tout le monde satisfait, tout le monde rassasié, tout le monde sent bien. Comment tu vêtis 270 enfants? Il n'y avait pas Chabanel. Alors qu'est-ce que tu faisais? À quoi je vous dis, c'est sur moi. Gratuit. Qu'est-ce qui arrive? Les habits qui sont sortis avec eux vont grandir au fur et à mesure. Le petit grandit, l'habit grandit, la tunique grandit avec lui. Le soulier, le pied grandit, les souliers vont grandir avec lui. Pas besoin de changer. Chaque jour, un nuage dégraisse, il va dégraisser toute leur tunique. Propre. Ils ne vont pas transpirer du soleil, rien, rien. 40 ans, ils n'ont pas changé d'habit. Vous pouvez vous imaginer? Parce qu'ils n'ont pas pris des habits pour changer. Et tu ne peux pas tisser, ni préparer, ni acheter des habits. Alors comment ils ont fait 40 ans? Rabbi Shimon Bar Yochai était dans une grotte 12 ans. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pour préserver une seule tunique qu'il avait, 6 jours de la semaine, il était nu dans un trou couvert avec du sable, en train d'étudier. La seule fois qu'il portait sa tunique, c'était Shabbat. Du Chvod Shabbat, il sortait, il mettait la tunique. Dimanche, il retournait dans le trou pour préserver la tunique. Ici, tu as 40 ans, des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont jamais changé la tunique. La tunique a grandi avec eux, les souliers ont grandi avec eux, repassés, bien propres, tout ce que vous voulez. À quoi je beaucoup s'occupe. Est-ce qu'ils ont jamais pensé quand ils sont sortis? Ils étaient précipités à sortir. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Mais à un certain moment, tu te dis, mais comment je me sors avec 270 enfants? Où je sors? Dans un désert? Qui c'est qui va s'occuper de moi et mes enfants? Tu sais, la délivrance arrive au point que tu ne penses plus qu'est-ce qui va arriver. Des gens qui pensaient déjà se jeter dans la mer. On va retourner avec 270 ans, avec des enfants, ils vont mieux se jeter dans la mer. Deux autres qui ont décidé de faire la guerre. Il y aura des morts, mais il vaut mieux que ça que rien. Des autres qui ont décidé de crier, des autres qui ont décidé de retourner. À la fin, Hachem, il a la porte de secours. Tu ne sais pas comment ça arrive. Mais c'est rien qu'Hachem qui peut le faire. Maintenant, ceci, l'Agmara, sur ce passage, dit, ne pensez pas que ceci c'est une histoire vécue, c'est une histoire vivante, qui veut dire c'est dans notre génération. L'Agmara nous dit, une confirmation, la Torah est donnée à ceux qui mangent la manne. On n'a pas de manne aujourd'hui. Eux, ils ont mangé la manne, nous, on n'a pas de manne. Même Yeshua, quand il a fait rentrer les Juifs, il n'y a pas de manne. Qu'est-ce que c'est la Torah donnée à celui qui mange la manne? C'est lui qui a la confiance et la foi. Comme ceux qui ont mangé la manne, il aura le mérite de manger la manne. La manne veut dire quoi? En d'autres mots, la parnassa. Des fois, tu fais des calculs. Aux États-Unis, ils sont très bons en calcul. Ils viennent et te font des comptes. J'ai besoin de tant et tant par mois. Si je achète ça, alors il faut que je réduise ici. Les gens font des calculs. À la fin, tu fais des calculs et c'est HM qui fait son calcul à la fin. On ne peut pas faire des calculs. D'autre part, on ne peut pas abuser non plus. Tu ne vas pas mettre tout ton argent, perdre, et après tu dis Hachem m'en occupe. Non. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire l'effort. Effort minimal. L'effort minimal. Alors, le Rav Shach disait, voilà, un jour, il y a un jeune garçon, je ne sais pas, c'est un père de famille. Il vient chez lui, il lui dit, Rav, j'ai étudié dans un collège. Il gagne $400 par mois. Rien que les loyers, c'est déjà $300. Il lui reste $100 pour acheter un peu du lait, des légumes, de strict nécessaire. Sa femme travaille un peu, moitié de journée. Alors, ils ont à peine comme ça, survivent le mois. Il a trouvé du travail. Il lui dit, je trouvais du travail. Quel travail? Dans une compagnie qui fait le bagel, ils ont besoin de quelqu'un de 1h du matin jusqu'à 5h du matin. Mais personne n'étudie entre 1h et 5h du matin. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, pas de problème. Je vais me reposer en après-midi un peu, je vais prendre des forces, de 1h à 5h, et je gagnerai $1,200 par mois. Le triple, qu'est-ce qu'il gagne au collège? Il a posé la question à Rav Shach. Le Rav Shach a dit, non, tu ne prends pas ce travail. Il dit, pourquoi? Tu m'as demandé, je t'ai répondu, c'est tout. Donc, le Rav, il a dit, non, c'est non. Il retourne chez lui. Il dit à sa femme, la femme a dit, si le Rav t'a dit non, c'est non. Après 3 mois, il réfléchit, mais c'est pas possible. Pourquoi pas? $1,200 en plus, je sais pourquoi le Rav a dit non. Le Rav a dit non parce qu'il a peur que je n'arrive pas à bien le lendemain étudier, faire tout ce que j'ai besoin de faire. Alors il veut pas que je gâche mes études à cause de la parnassa. Il a pris le travail, il est parti, il a pris le travail. 3 mois plus tard, il retourne voir le Rav Shach. Il commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je ne vous ai pas écouté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, j'ai pris le travail que vous m'avez dit non. Ça m'a pris 3 mois, mais je l'ai pris. Voilà, on est 3 mois plus tard, je gagne plus d'argent, mais à la fin des mois, j'arrive avec exactement la même somme que j'avais quand j'ai gagné $400. Il dit, je ne comprends rien. Est-ce une malédiction? Qu'est-ce qui arrive? Il dit, non. Je ne t'ai pas maudit, je t'ai rien. Je t'ai dit de ne pas le prendre. Il dit, mais comment? Il dit, voilà, c'est simple. Hachem te donne la parnassa Rosh Hashanah. Ce que tu dois gagner, tu vas le gagner Rosh Hashanah. C'est déjà décrété Rosh Hashanah. Tu ne vas pas gagner un sou de plus. Rosh Hashanah, c'était déjà écrit. Maintenant, tu dois faire tes efforts. Tu dois faire tes efforts jusqu'à arriver à Rosh Hashanah prochain. Exemple, il y a un percolateur. On le remplit avec de l'eau. Normalement, dans un percolateur, il y a un robinet pour prendre de l'eau. Il y a quelqu'un qui dit, ah non, mais ça ne donne pas de l'eau assez rapidement. Moi, je vais faire 5 robinets sur le percolateur. Il va faire 5 robinets. Est-ce qu'à la fin, il aura plus d'eau? Non. Seulement quoi? Il aura de l'eau plus vite. Ça? Mais ça va se remplir, ça va se vider plus vite aussi. Même chose. Tu cours à gauche, à droite, depuis Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, on t'a déjà décrété combien tu vas gagner. Avec un peu d'effort, tu vas recevoir la même chose. Alors, les gens courent à gauche, à droite, de téléphone. Il y a des gens qui travaillent 24 heures, 7 jours par semaine. À la fin de l'année, tu penses que tu as fait plus d'argent. Mais tu sais qu'est-ce qui va arriver? Tu auras plus de tickets d'intervention à Chas Shalom. Tu auras plus à aller chez le docteur, des médicaments qui sont dispendieux. Hachem va assurer qu'à la fin de l'année, tout l'argent que tu as gagné en plus, il va te l'enlever. D'une manière ou d'une autre. Et toi, tu vas te poser pourquoi? J'ai fait plus d'argent, oui. Mais ce qui a été décrété, c'est ça que tu vas gagner, pas plus que ça. Mais il faut avoir cette émouna. Il lui a dit, tu regardes, avec le $400, quand je te donne une bénédiction, c'est quoi? Jamais la machine à laver va se casser. Jamais tu auras des tickets d'intervention. Jamais tu auras à l'aide chez le docteur. Jamais ça, jamais ça. Avec $400, tu vas faire ce qui fait un gars avec 1200. Mais il faut que tu aies l'émouna. C'est pour ça que je dis de ne pas le prendre. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le gens qui mange la manne. Tu demandes aux gens qui sont en Israël, qui sont en train d'étudier, comment vous vivez? Il y a des familles, des centaines de familles. Ils gagnent $400 ou $500. Il faut qu'ils font une heure en plus, ils gagnent peut-être $100 en plus. $600 contre le loyer à $400, qu'est-ce qu'il reste? $200 pour le reste du mois. La femme travaille encore, $200 encore.
Il y a plein de pauvres.
Hein? Il y a plein de pauvres, c'est ça. Mais en vérité, il y a aussi beaucoup de gens qui le font. Ils ne vivent pas dans le luxe, mais comment ils arrivent? On ne sait pas, on ne sait pas. Regardez une histoire qui arrive en Suisse. En Suisse, il y a quelqu'un qui a 14 enfants. Il a 14 enfants. Et lui, il étudie. Jamais sa femme lui a dérangé de ses études. Mais après 14 enfants, la grande est arrivée à 18 ans. Il faut la marier. Alors la femme a dit à son mari, écoute mon mari, depuis qu'on se mariait, jamais je ne t'ai rien demandé, jamais je ne t'ai jamais dérangé. Tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est moi qui s'en occupais. Mais la grande, la fille, il faut la marier. On ne peut pas la marier sans rien. Il faut le trousseau, quelque chose, minimum. Il lui dit, mais Hachem qui s'est occupé de lui jusqu'à date, il va continuer à s'occuper. Il dit, oui, mais tu sais, elle commence à lui parler, mais lui, il ne veut rien savoir. Mais la femme, comme c'est un chétrail, elle voyait que le mari ne veut rien savoir, elle n'a plus dérangé. Elle a dit, toi, si tu crois, tu crois. 7 mois plus tard, il reçoit une lettre de convocation dans un bureau d'avocat. Et apparemment, il va voir un juge là-bas et toutes sortes. Lui, il pensait, Chas Shalom, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il a frappé quelqu'un par accident? Il s'est sauvé? Il commençait à trembler. Lui, jamais il connaît ni la cour, ni les avocats, ni rien. Et sa femme lui dit, regarde, qu'est-ce que tu m'as dit que tu as la émouna, tu as la foi? Pourquoi tu commences à trembler? Si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Va voir. Il arrive dans un bureau d'avocats, des grands avocats, c'était un grand bureau. Il y a un juge là-bas. Dès qu'il rentre, tout le monde se lève. Alors lui, il croyait qu'il y avait quelqu'un derrière lui, il regarde, mais c'est que lui. Il ne comprend rien. On lui dit, monsieur tel et tel, oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Il s'assoit. Est-ce que vous êtes monsieur tel? Oui. Famille tel? Oui. Vous avez tel nombre d'enfants? Oui. Vous habitez telle adresse? Oui. Lui, comment ça? Pourquoi il me donne tout ça? Il dit, bon, vous venez d'hériter comme quelques millions de dollars. Il dit, quoi? Vous êtes sûr que c'est moi? Il dit, oui. Si tu dis que c'est toutes les informations sont vraies, c'est toi. Il dit, comment? Moi, j'ai rien fait pour. Je n'ai pas joué à la loterie, j'ai rien fait. Il dit, non, écoutez, il y a un homme juif qui était jamais marié. Un homme célèbre, un homme très riche. Et dans son testament, il ne savait pas à qui laisser le testament. Il s'agit des immeubles, des terrains, il s'agit de toutes sortes de choses. Ça remonte à quelques millions de dollars. Alors, il a laissé dans son testament un vœu qu'on les donne à la plus grande famille en Suisse. Quand on a fait la recherche, vous êtes, Bli Aynara, 14 enfants, vous êtes la plus grande famille. Donc, il a gagné le... Il était tellement content et tout. Une fois, j'ai raconté ici à la synagogue cette histoire, il y avait le Rav Vichia Ben Chitrit. Lui, il m'a dit, ah, j'ai pas écouté cette histoire. Il m'a dit, mais j'écoutais la fin. J'écoutais une fois vaguement l'histoire, mais j'écoutais la fin. Je lui dis, alors, demain, je te donne le début, demain la fin. Il m'a dit, la fin, c'était comme ça. Cette famille n'était pas la plus grande famille en Suisse. Elle n'était pas la plus grande famille. Il y avait une autre famille suisse qui était des non-juifs qui avaient 13 enfants. Ça veut dire que les deux familles étaient égales. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans l'année, ils ont eu un enfant, un petit garçon. Ce qui a fait qu'ils sont devenus 14. Alors, c'est pour ça qu'ils ont, ça veut dire, c'est pour ça qu'ils ont gagné, mais regardez, ce n'est pas le hasard. Hachem a fait qu'ils auront le 14e bébé pour prendre tout l'héritage, pour ne pas devoir le partager. Ça, c'est rien qu'Hachem. Une famille de 14 enfants, tu commences à faire des soucis, comment on va marier? Surtout la fille est arrivée et le père ne veut pas bouger, ne veut rien faire. Hachem donne la manne à ceux qui mangent la manne. Ça veut dire à ceux qui ont la foi, la croyance. Hachem va leur donner la manne. Alors pour vous dire, voilà, nous on pense toujours, on fait des calculs, mais on ne laisse pas Hachem à faire ses calculs à lui. On ne laisse pas Hachem nous montrer la lumière. Une fois le Rav Shach, il disait à ses élèves, vous savez qu'il y avait un rebbe, il n'a pas dit le nom du rebbe, il a dit il y avait un rebbe, qu'il disait à ses élèves, chacun fait une prière, qui demande à Hachem ce qu'il a besoin. Et moi, je veux vous dire, qu'est-ce qu'Hachem vous répond? Waouh, les chassidim, ils étaient fascinés. On va faire une prière et le rebbe va nous dire si on a été répondu. Ou qu'est-ce qu'Hachem nous répond. Alors ils ont fait tous. Ils sont tous partis dans leur coin, chacun fait sa prière. Il y avait un qui a terminé vite la prière. Il vient chez le rebbe, il dit, Rav, qu'est-ce qu'il a dit Hachem pour ma demande? Il dit, voilà. Il dit, je pense, tu as dit Hachem, Hachem, regarde, j'ai des enfants à la maison. Je dois marier bientôt quelques enfants. Chaque mois, j'ai des problèmes pour terminer le mois. Tu sais, Hachem, si tu me donnes 1 million en compte en banque, je ne vais pas utiliser tout de suite. Rien que ce soit là-bas. Et si j'arrive à avoir des intérêts de 10 000 dollars par mois, rien que pour souvenir à le besoin de ma famille. Et si tu arrives à trouver de bons khatan pour mes filles et de bons kala pour mes garçons. Et si tu fais ça, je te dis, Hachem, tu sais quoi? Je suis prêt à venir à la synagogue depuis le matin jusqu'au soir. Je suis même prêt à rester 1 heure après la prière ou venir 1 heure avant la prière. Et tu me verras toujours à la synagogue, je parlerai, j'étudierai. Toi, le chassid, tout ce que le rabbi dit, il dit, oui, c'est exactement ce qu'il a. Il dit, c'est incroyable, comment vous savez ça? Alors le chassid dit, alors qu'est-ce que Hachem a dit? Vous avez dit, Hachem t'a dit, je n'ai pas besoin de tes faveurs. Si je te donne le million et le 10 000 dollars par mois et tout ça, tu vas venir étudier et tout ça, garde tes faveurs à toi et moi je garde le million et le 10 000 dollars et tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours Hachem, si tu me donnes, il y a plein de gens, toujours, si tu dis pourquoi tu viens pas à la synagogue? Ah non, tu sais, surtout de jeunes couples malheureusement, ils viennent d'avoir un garçon et une fille. Ah, je viens d'avoir un garçon et une fille, ma femme a besoin de moi. Mais avant tu priais avoir un garçon et une fille et quand Hachem te l'a donné, maintenant tu utilises contre lui. Avant, tu venais chaque fois. Maintenant, il faut changer la couche. Il faut dire, mais donne à Hachem quelque chose. Alors, comme si tu faisais faveur à Hachem. Tu demandes et en retour, tu ne donnes rien. Alors, on dit, ça, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui est arrivé à la génération de la manne? Il ne faisait pas de compte. Il ne pensait pas deux fois. Il faisait. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais et je ne pense pas. Hachem va s'en occuper. Ça prend beaucoup de croyances. Mais c'est ça. Il y a des résultats aussi. Des fois, des choses qu'on ne pense même pas, voilà qu'est-ce qui peut arriver. Alors, parlons de remercier Hachem. Vous savez que Hachem, une de ses grandes faveurs qu'il nous a fait, c'est les choses les plus nécessaires pour notre vie, il nous a donné gratuit. Aujourd'hui, il paye pour tout. Mais il y a des choses qui nous... L'air. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Même pas un souffle. Tu ne peux pas rater un souffle. L'air, c'est gratuit. Seulement, il y a des gens de business, vous allez en Israël, ils vous vendent des petites canettes, l'air d'Israël. Mais sur la base, c'est écrit, sans garantie, une fois ouvert. C'est des hommes, il y a des hommes de business, ils font, même avec l'air, ils font du business. Mais Hachem nous a donné l'air gratuitement, Baruch Hachem. Alors, pas besoin de se faire de soucis pour ça. Après ça, de l'eau. La Gemara dit, de l'eau, c'est gratuit. On ne parle pas de Coke, Sprite, l'eau, c'est gratuit. Bon, il y a de l'eau aux sources, mais ça, c'est déjà un déluxe. L'eau, tu ouvres le robinet, c'est gratuit. Tout ce que l'homme a besoin, Hachem lui a donné gratuitement. Qu'est-ce qu'Hachem demande en retour? Qu'est-ce qu'Hachem demande? La Gemara dit, « Kol haneshama ta'alelia, halleluya. » Toute l'âme remercie Hachem. Dit la Gemara, qu'est-ce que c'est neshama? Qu'est-ce que c'est l'âme? Ne lis pas, ne dis pas « Kol haneshama », que toute âme remercie Hachem. « Kol haneshima », Sur chaque souffle, tu remercies Hachem. Tu es capable de respirer seul, Baruch Hachem, pas besoin d'entrer à l'hôpital avec des machines, des pompes. Remercie Hachem pour ça, chaque souffle. Baruch Hachem, je te remercie Hachem, tout ce que tu fais pour moi. Tout, tu remercies Hachem. Il y avait une fois, une rabbanite. Son mari, c'était un grand rébé. Et beaucoup de gens venaient pour recevoir la bracha d'elle. Les gens faisaient la queue. La rabbanite toujours a assuré que sur la table, quand il y avait des gens qui venaient, toujours des petits gâteaux, des petites sucreries, des boissons, toutes sortes de choses. Il y a des gens qui attendaient 3 heures, 4 heures, qui aura toujours quoi à manger. Une fois, elle a vu une chassid qui est venue recevoir un bras de son mari. Il y a un chassid, il prend un petit gâteau. Il avale. La rabbanite s'est tellement énervée avec lui, il dit, viens ici. L'autre, il dit, quoi? Je croyais qu'on a le droit de prendre. Il dit, mais sûr, c'est fait pour prendre. Il dit, mais comment tu as fait la bracha? Il dit, j'ai fait la bracha. Il dit, mais comment tu l'as fait? Il dit, tu sais que nos sages expliquent, quand tu prends un grain de blé et tu le sèmes dans la terre, qu'est-ce qui arrive? C'est pas sûr qu'il va pousser. C'est pas tout le grain de blé qui pousse de la terre. Il y a beaucoup de grains qui vont pourrir et ils vont plus grandir. Alors, vous savez que le grain de blé est en train de prier Hachem et lui dire, Hachem, fasse que je puisse sortir de la terre. Je puisse monter sur la terre et sortir une germe de blé, une épi de blé. Et Hachem écoute sa prière. Voilà l'épi de blé, elle est montée sur la terre, elle est belle, elle est bien à sa taille. Voilà le temps de la moisson arrive. Quand ils moissonnent le blé, avec des tracteurs maintenant, tout ça, il y a beaucoup de pertes. Il y a plein des épis de blé qui sont éparpillés. Ils n'arrivent pas dans des usines. Ils sont là-bas jetés. Il y a beaucoup de graines des épis de blé qui sont mangés par des souris, des rats qui rentrent dans le champ, ou des renards, toutes sortes d'animaux. Alors l'épi de blé, quand elle est à sa taille, elle n'arrête pas à prier Hachem. Hachem, fasse que je puisse être dans le ballot. Quand on coupe le moisson le blé, je puisse dans un ballot qui va être transporté à la comment on appelle ça, au moulin, c'est ça, merci, au moulin. Elle prie, voilà, Hachem a répondu. Arrivé au moulin, bon, on va écraser le grain, on va sortir la farine, mais combien de farine tombe par terre? Plein. Cette farine est gaspillée, c'est fini. Elle ne pourra jamais être du pain ou du gâteau ou n'importe quoi d'autre. Alors le grain de blé n'arrête pas à prier. Quand ils vont être farine, qu'ils puissent être dans un petit sac ou dans un grand sac, mais ils puissent rentrer dans un sac. Une fois qu'ils ont arrivé dans le table du sac, la farine n'arrête pas à prier. Hachem fait de sorte que j'arrive dans un supermarché où il y a des juifs dans le voisinage. Vous avez la farine, c'est ça? Je ne sais pas quelle marque, Five Rose ou Robin Hood et tout ça. Mais ça va partout en Canada, ça va partout aux États-Unis. Mais ça ne va pas dans tout le supermarché qui a du cacher. Même dans le supermarché qui n'y a pas de cacher, c'est pas toujours il y a des fois des juifs qui l'achètent, des fois des flancs juifs. La farine va tomber entre les mains d'un juif. Elle prie, voilà, elle arrive. Baruch Hashem, ce sac de blé, la farine, est arrivée dans une maison des juifs. Maintenant, on prépare des gâteaux, on prépare du pain pour Shabbat, on prépare n'importe quoi. Et voilà, la farine, ce qui est devenu maintenant, ou une pâte, ou n'importe quoi, n'arrête pas à prier. Pourquoi elle prie? Même s'il est tombé dans la main d'une famille juive, mais est-ce qu'ils vont dire la bracha? Tout le but de ce grain de blé, qu'à la fin, on puisse dire une bracha. Alors, comment? La terouma, c'est une mitzvah. Mais c'est quoi la plus grande mitzvah après qu'on a fait terouma? Qu'on puisse réciter une bénédiction sur cette farine. Qu'on la mange avec bénédiction. Alors, elle n'arrête pas à prier. Alors, la rabbani disait à ce chassid, mais toi, tu as avalé la bracha. Ce grain de blé qui n'arrêtait pas de prier depuis qu'on l'a semé, jusqu'à qu'on l'a mis dans le sac de farine, et maintenant on a pu faire un gâteau, toi, tu as avalé la bracha. Tu sais combien de mois ça a duré ces prières? Alors, si on réfléchit un peu, et c'est vrai, selon le kabbaliste, selon le Ben Shraï, selon beaucoup de kabbalistes, dans presque chaque aliment, il y a une âme. Et cette âme demande qu'on fasse une bracha pour l'élever. Alors voilà, nous avons cette occasion de le faire tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est l'anniversaire de toute la création de la végétation, si vous voulez. Les arbres. Et le Harizal, il a dit que tout Bishvat, il faut prier pour les arbres. Parce que maintenant en Israël, maintenant, Baruch Hashem, c'est la période de pluie s'arrête. Ils vont commencer à rentrer à Pourim. Mm-hmm. Et dès qu'il rentre à Nissan, c'est Pessah, c'est déjà le printemps, ça va vers le, ça va vers l'été, c'est ça? Alors c'est la période chaude. Et le fruit, les arbres vont commencer à bourgeonner. Maintenant, à Tu Bishvat, les arbres vont monter une sève dans le tronc. Et cette sève va alimenter le tronc et les branches pour qu'ils puissent bourgeonner. Ici, malheureusement, il faut attendre la période de dégel jusqu'on arrive. Mais dans un climat normal, ça commence Tu Bishvat. Et là, Tu Bishvat, c'est une mitzvah de prier pour le fruit qui vont venir de l'année prochaine, dans l'année d'après. Si vous rappelez, il y a 2 ans, il y avait de la grêle qui a frappé en Floride. Il y a toutes les oranges, les orangers qui ont été frappés. Et là, ça a fait monter le prix de jus d'orange, plein de choses. Tout le monde sont affectés par cela. Alors, la chose est qu'on doit prier pour ces fruits. Nous aussi, on doit prier pour ces fruits. Et le jour de prier, c'est le jour où la sève commence. Et la sève commence à monter le jour de Tu Bishvat. C'est pour cela que ce jour a été instauré comme jour de prière et pour le fruit. Qu'est-ce qu'on fait comme prière? La prière qu'on fait, c'est la bénédiction. Bore pri haetz, bore pri adama, mezono, tchakol. Ça, c'est la prière qu'on fait. Et on demande à Hachem. Il y a un kabbaliste à Tzfat. Il y a des kabbalistes qui ont fixé un livre qui s'appelle Chemdat Hayamim. Ce livre-là, il y a chaque fruit. Et chaque fruit, là, c'est un passage du Zohar qu'on lit ou du Talmud à propos de ce fruit. Par exemple, je vous donne rien qu'un exemple comme ça rapide. Si vous prenez je crois que c'est le pécan, la grosse noix, ça, si vous l'ouvrez, ça a la forme d'un cerveau. C'est exactement, vous voyez même des veines, comme s'il y a des petites veines. Le Zohar, il dit, c'est exactement, c'est un mini cerveau. Et il faut que tu pries pour la sagesse quand tu manges ce fruit. Là, c'est un exemple. La noix. Grenoble s'appelle? Oh, vous avez compris laquelle. Jusqu'à Tu Bishvat, on va la savoir. Bezrat Hashem. Tu Bishvat d'abord. Tu Bishvat, on va faire la bracha. Mais rien que pour vous donner un exemple. Chaque fruit, il a sa spécialité. Il y a l'olivier. Les olives, ils ont leur spécialité. Il y a chaque fruit, il a sa spécialité. Et c'est pour ça que le Chemdat Hayamim, le grand kabbaliste à Tzfat, ils ont fait un livre de prière pour chaque fruit. Minimum, il faut essayer minimum de en consommer 30 fruits. Jour de Tu Bishvat. Les Ashkenazes mangent 15.
En même temps, le même soir.
Le même soir. Parce que c'est un soir. C'est très facile. 30 fruits, c'est très facile. Vous allez voir, vous allez avoir, si vous achetez presque tous les fruits qu'il y a sur le marché, minimum vous allez avoir 50 et 60. 30, c'est très facile. On parle des fruits de base, on ne parle pas des fruits extraordinaires. Fruits de base, de bananes, de pommes, de poires, de kiwi, de la mangue, le cantiloupe, tout ce que le fruit, tout le noix, les cacahuètes, c'est facile à avoir 30. C'est facile. Et le Harizal dit, on le met à table. On le met à table et qu'est-ce qu'on fait avec? Maintenant, regardez. Combien de brachot nous avons? La première bracha, c'est Mezonot. Deuxième bracha, c'est Aetz. Troisième bracha, c'est Adama. Quatrième bracha, c'est Sheakol. Pourquoi ça va en cet ordre? Plus que la bracha est spécifique, plus qu'elle prend de l'avance. Quand on parle de Mezonot, la bracha de Mezonot, ça parle de 5 céréales. Ça parle d'un produit de 5 céréales. Orge, avoine, épeautre, tout ça. Alors, ça, c'est un groupe très restreint. C'est pour ça que Mezonot est toujours en premier. Toujours, quand vous venez à table, il y a des fruits, des légumes, il y a des Mezonot, la première bracha à faire sur le gâteau, Mezonot. Parce que c'est un groupe très restreint à 5 grains. Normalement, on le fait de la farine, mais il y en a de toutes sortes de blé d'orge, tout ça, et grains d'orge. Alors, Mezonot sont en premier. Après ça, le groupe qui est moins que le Mezonot, c'est le Etz, tout ce qui pousse à l'arbre. C'est un grand groupe, mais il est. Etz, c'est très vague. On ne parle pas. Qu'est-ce qu'on parle? D'un olivier, d'un figuier, de qu'est-ce qu'on parle? C'est très vague. Mais quand même, c'est un groupe qui vient après le Mezonot. Et après cela, on a Adama. Le groupe, tout le groupe qui pousse par terre. Pourquoi il est en troisième rang? Parce que même les arbres poussent par terre. Et quand je dis pré-Adama, c'est très vague. Parce que ça peut inclure tout ce qui pousse sur l'arbre. Exemple. Si quelqu'un se trompe et il prend une tomate, c'est ça? Pardon, il prend une pomme et il dit Baruch Ata Hashem Bore Pri Adama, remercier Hachem qui a créé le fruit de la terre, ça passe. Parce que l'arbre pousse par terre. Le contraire n'est pas valable. Si vous prenez une tomate et vous dites « Baruch atah Hachem, je te remercie Hachem pour avoir créé ce fruit de l'arbre », c'est faux. Hachem n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas que tu le loues sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Jamais il y a une tomate qui est poussée sur un arbre. Alors ça c'est faux. La bracha n'est pas valable, il faut reprendre. Mais le contraire est bien. C'est pas bien, ça veut dire que ça passe. Si tu as pris une pomme et tu as dit « tu remercies Hachem pour avoir créé le fruit de la terre », c'est pas exact, mais c'est pas faux. Parce que l'arbre pousse par terre. C'est pour ça que Etz vient avant Adama. Et après, tu as le dernier groupe qui est Sheakol. Sheakol veut dire tout ce qui ne pousse pas, ni de saint grain, ni sur un arbre, ni sur la, par terre. Alors d'où est-ce qui vient? Le lait, le poisson, la viande, ça ne pousse ni sur un arbre, ni sur de la terre. Donc, c'est un groupe très très général. Dans ce cas, tu vas dire Sheakol. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans le bénédiction, comme on vient de dire, c'est très important de ne pas dire un mensonge. Mais il y a des berachot qui peuvent tout renfermer. Si tu dis mazonot sur une tomate, ça passe. Qu'est-ce que c'est mazon, mazonot? Nourriture. La tomate, c'est de la nourriture? Oui. Ça veut dire a posteriori, si quelqu'un s'est trompé, il a dit mazonot, ça passe. C'est bon. Mais a priori, il faut faire la bracha. Mais c'est lui qui s'est trompé. Il arrive beaucoup de fois que les gens se trompent. Regardez, toujours les gens se trompent dans les brachot. On dirait qu'ils ne sont pas du tout concentrés quand ils font les brachot. Tu ne poses jamais une question sur toi-même, est-ce que j'ai mangé ou pas? Tu ne te poses jamais la question, tu sais exactement si tu as mangé ou pas. Mais tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? Est-ce que j'ai fait la bracha Etz ou Adama ou pas? Pourquoi tu poses toujours la question sur la bracha et tu ne te poses jamais la question sur l'action d'avoir mangé? Parce que tu n'es pas concentré. Tu te concentres sur ce qui te plaît, sur ce qui t'intéresse. La bracha, on le fait vite. Alors, on se pose des questions. Mais, dans le cas d'une erreur, qu'au lieu de dire la bonne bracha, il a dit une autre, tant que la bracha inclut ce que je suis en train de manger, ça passe. Alors, je dis mezonot sur n'importe quoi, sauf l'eau, ça passe. Sauf l'eau et sel, tout mezonot. Une orange, mezonot, ça passe. Une tomate, ça passe. Une banane, ça passe. Tout se passe. Parce que tout est rentre dans la catégorie de ma zone. J'ai fait Sheakol. Sheakol inclut tout. Pourquoi? Sheakol ni Amidvaro. Je remercie Hachem que tout a été créé par sa parole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été créé par la parole d'Hachem? Tout a été créé par sa parole. Le pain, le légume, le fruit, la viande, le lait, tout, tout, tout. Alors Sheakol, vraiment, il acquit tout. Mais seulement quoi? Je ne peux pas faire Sheakol a priori sur une tomate. Il faut que tu fasses Adama. A posteriori, tu as dit sur la tomate Sheakol, ça passe. Il y a une idée qui est un peu fausse. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand je ne sais pas quoi faire, j'ai fait Sheakol. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que cette règle a été dite seulement quand il y a un manque de savoir chez nos sages, pas chez l'individu. Qui veut dire, si je ne sais pas quoi faire sur une tomate, je ne peux pas faire Sheakol. Je dois appeler quelqu'un, un ami, je dois demander à mon voisin qui me dit la bracha qu'il faut dire. Si je personne autour de moi, peut-être. Mais si j'ai la chance d'appeler ou de demander, je suis obligé d'appeler ou demander quelle est la bracha qu'on fait sur une tomate, sur une pomme, sur une banane, sur n'importe quoi. S'il y avait une erreur, ça passe. Mais a priori, il faut faire la bracha. Quand est-ce que on dit qu'une erreur est passe? Quand nos sages, ils ont un doute. Je vais vous dire le deux fruits. Il y avait au début une grande discussion sur le kiwi. Le kiwi, c'est comme un fruit exotique, mais le kiwi, en vérité, c'est un mélange de poire et fraise. Quand vous ouvrez le kiwi, il est vert comme les poires, mais il a des petits grains comme la fraise. Parce que c'est une greffe. Le kiwi, c'est une greffe. Ils ont pris une poire avec une fraise, ils l'ont mélangé, ils ont reçu un kiwi. Nous, autant que juifs, on n'a pas le droit de le faire. Parce que c'est interférer dans la création d'Hachem. Après Bereshit, on n'a plus le droit de créer de nouvelles choses. Hachem a créé tout en place. Il n'a pas besoin de nouvelles choses. Mais il y en a qui font ces interventions. Nous, on n'a pas le droit de créer, mais on a le droit d'en profiter une fois en place. Ça veut dire, si une fois qu'ils l'ont créé, il y a plein de greffes. La nectarine, c'est des greffes. La pomme chinoise, c'est une pomme avec la poire, c'est des greffes. Il y a il y a des pamplemousses rouges, tout ça, c'est ça. Comment? Le pomelo aussi, toutes sortes. Alors là, le kiwi, quand il est sorti, il y avait un grand problème avec. Pourquoi? Normalement, quand ils vont greffer, ils vont prendre deux fruits de la même famille. Par exemple, deux fruits qui viennent de l'arbre. ou deux fruits qui viennent de la terre. Là, le kiwi, ils ont pris un fruit qui vient de l'arbre et l'autre fruit qui vient de la terre. Ils l'ont mélangé. Quel bracha j'ai fait? Est-ce que j'ai fait à Etz, parce que la poire c'est à Etz? Ou est-ce que j'ai fait à Adama, parce que la fraise c'est à Adama? Alors, je ne peux pas faire chez Akol. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai le choix ou entre Etz et Adama. Qu'est-ce qui est plus sûr? Adama. Si je fais à Etz et c'est faux, la bracha n'est pas valable parce qu'il y a le côté de Adama. On ne peut pas dire Etz sur quelque chose qui provient de la terre. Mais si je dis Adama parce qu'il y a de la fraise, même si je me suis trompé, j'acquitte toujours la poire. À la fin, ils ont décidé que le kiwi c'est Etz. Oui. Pourquoi? Parce que dans la greffe, il y avait plus de pourcentage de la poire que la fraise. Et on sait que toujours la majorité domine. Alors la majorité dominante dans ce fruit, c'est la poire. Et la poire, c'est Etz, la bracha est devenue Etz. Un autre exemple, le noix de cajou, d'acajou. C'est une noix, et la queue de cette noix, c'est ce que nous mangeons, nous. Au début, les décisionnaires, si vous regardez les Alkout Yosef des autres décisionnaires, ils ont dit que la noix d'acajou, c'est Adama. Pourquoi? C'est un fruit secondaire. Tout ce qui est fruit secondaire change de statut. Je vous donne un exemple. Cœur de palmier. Cœur de palmier, c'est un fruit secondaire. C'est quoi le premier fruit de l'arbre du palmier? La date. Cœur de palmier, c'est un fruit secondaire. Tout ce qui est fruit secondaire descend de niveau. Alors, on a dit les niveaux, c'est mesonote, etz, adama, shakol. Si la date, c'est le premier fruit du datier, le fruit secondaire va être automatiquement adama. Alors, le palmier, c'est Adama. Il y en a qui font chez Akol. Mais, pour vous dire, il descend du niveau. Alors, la noix d'acajou, au début, il disait c'est Adama. Au début. Pourquoi? Parce qu'il y a la noix. La queue de cette noix, c'est ça que nous mangeons. Comme ça, il disait le décisionnaire. Mais après, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. La noix elle-même n'est pas mangeable. C'est du bois. Ils pensaient au début que la noix se mange. Et là, il y a une petite queue qu'on mange. Alors, elle devient secondaire. Mais à la fin, ils ont trouvé que dans la noix d'acajou, la noix elle-même n'est pas mangeable, c'est du bois. Quel est le fruit principal? C'est la noix d'acajou, c'est cette petite queue qu'on mange. Là, elle devient le fruit principal. Alors au début, ils disaient Adama. Maintenant, selon toutes les opinions, la noix d'acajou, c'est Boré Periaïs. Ça? Mais si tu as dit Adama, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé, si on dit Adama, ça passe. C'est pas faux. La papaye, c'est un arbre, mais la bracha, c'est Adama. C'est Adama. Pourquoi? La papaye, c'est un arbre exceptionnel. Il donne ses fruits dans la même année qu'on le plante, comme une tomate. Normalement, un arbre, ça lui faut 3 ans avant qu'il commence à donner des fruits. La papaya, tu la mets dans la terre, la première année, elle te donne des fruits déjà. Ça, c'est comme le tomate, le concombre, tout ça. Alors, c'est pour ça que malgré c'est un arbre, c'est un grand arbre. Et tout, sa bracha, c'est Adama. Alors, encore, dans le berachot, il ne faut jamais dire « je ne sais pas, alors je vais dire shakol ». Non, tu ne sais pas, tu demandes. À moins que le sage de la génération, il y a un nouveau fruit, eux, ils doutent. Là, ils vont te dire quoi dire? Shakol, Adama, Aetz, tu vas leur suivre. Mais tant que tu ne sais pas, tu demandes. La Gemara dit « qui c'est qui veut être pieux? Qui c'est qui veut être acide? » Qu'il apprend les lois de berachot. Les gens pensent que de faire les lois de berachot sont faciles. Les lois de berachot sont très difficiles. Qu'est-ce que je fais avec une soupe? On va dire un bouillon du poulet et je mets du crouton. Est-ce que je fais 2 brachot? Je fais 1 bracha. Le céréal le matin, c'est très courant. Combien de brachot je fais? Je fais 2 ou 1 bracha. Est-ce que je fais sur le céréal 1 bracha? Par exemple, si je prends exemple Cheerios. Les Cheerios, c'est fait à base de farine. Alors, les Cheerios, c'est mesonote. Mais le lait, est-ce que je dois faire chez Akol ou pas? Non. Pourquoi non? Non, pas à cause de ça. Parce que quand vous mangez des céréales, vous voulez du lait? Non. Vous voulez le céréal. Le lait, il vient pour mouiller un peu le céréal. Mais tu as raison dans le cas suivant. Il y a beaucoup de gens qui mettent de lait en plus. Pourquoi? Parce qu'ils aiment à la fin, quand ils terminent le céréal, boire le lait. Là, ils vont faire 2 brachot. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est le 2. Et le céréal et le lait. Maintenant, dans le céréal, c'est très compliqué. Il y a des céréales à base de farine. Maison autre, Cheerios. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Peut-être Raisin Bran, c'est ça? Tout ce qui est gruau, c'est ça? Comment? Non, Les raisins, ils viennent rien que pour donner un goût. Et la majorité, c'est le céréal. Il n'y a pas de bracha sur le raisin. Vous faites une seule bracha. Encore, si vous voulez le lait, de plus, là, vous allez faire shakol. Mais il y a beaucoup de céréales aujourd'hui sur le marché, la majorité, je crois, sont en base de farine de maïs ou de maïs. Alors, vous avez le Kellogg's, le cornflakes, ça. Cette compagnie, ils font leur flocon de maïs comme à base de maïs soufflé, comme, comment ça s'appelle ça, le popcorn. La maïs soufflé, c'est quoi le bracha, Adama? C'est la maïs soufflé. La maïs soufflé. La même chose, la compagnie Kellogg's, quand ils ont fait ce céréal, parce que c'est eux l'original, c'est eux qui ont sorti cette histoire cornflakes, c'est ça, le cornflakes. Alors, c'est Adama. Pourquoi c'est des maïs écrasés? Toutes les compagnies qui les ont imités, vous savez, dans le céréal, il y a beaucoup d'imitations. Toutes les compagnies qui les ont imitées, ils n'utilisent pas la farine, le maïs écrasé. C'est la farine de maïs. Ils prennent la farine de maïs, ils les mettent dans des petits moules où ils ont des systèmes de le faire et ils créent ce flocon de maïs. Là, la bracha, ce n'est plus Adama, c'est chez Akol. Parce que la farine a été déjà déformée. Ça veut dire que le fruit a été déformé. Et là, sa bracha, c'est Shakol. C'est pour ça que toujours, sur une boîte de céréales, rien qu'avec les céréales, vous allez prendre plein de brachot. Parce que toujours, il faut lire le premier ingrédient. C'est quoi le premier ingrédient? Si c'est de la farine ou de l'avoine, mezonote. Si c'est de la maïs, Adama. Farine de maïs, c'est Shakol. Ça? Mais vous avez un céréale qui est un peu mélangeant, c'est le Rice Krispies. Le riz soufflé. Ça? Maintenant, le Rice Krispies et le rice cake, les galettes de maïs, de riz. C'est ça? Non. Non. C'est ça. Rice cake. Le galette de riz. C'est ça? Maintenant, regardez. Le riz, c'est un aliment qui a eu une bénédiction spéciale. Pourquoi? Le riz, où est-ce qu'il pousse? Par terre. Quel bracha il faut faire normalement? Adama. Mais sa bracha, c'est pas Adama, c'est Mezonot. Pourquoi? Il a eu ce qu'on appelle upgrade. Upgrade, il a une upgrade. Pourquoi ça? Pourquoi il a une upgrade? Parce qu'il nourrit. Il nourrit comme les zonotes. C'est ça. Il nourrit, il fait le même effet que du pain. Il nourrit. Il y a des gens qui peuvent regarder les Chinois. Toute la journée, ils ne mangent que du riz. Et ils sont bien. Alors, puisqu'il nourrit comme ça, ils ont élevé sa bracha. De Adama, il est devenu les zonotes. Mais il y a une condition à cela. Il doit être bouilli. Il faut qu'il soit bouilli. Ça, il y a des autres qui disent il faut que le grain se colle, mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Mais il faut qu'il soit bouilli. Mais le grain de riz soufflé, comme le rice cake. Le rice cake c'est quoi? Les galettes de riz c'est quoi? C'est de grains de riz soufflé à la chaleur. Et avec la chaleur, ils se collent un dans l'autre, ça forme le petit gâteau que vous voyez. Ça n'a pas été bouilli. Alors la bracha est la bracha initiale. Adama. Pas chez Akol? Pas du tout. C'est Adama. Le riz à base, c'est Adama. Il est monté de niveau. Il est devenu mezonot. Maintenant, si on va le descendre, on va pas le descendre deux niveaux. Un niveau. Un niveau, c'est Adama. Alors, le Rice Krispies, que c'est le petit céréal qui fait des bruits, les enfants, ils aiment comme ça. Écoutez, le Rice Krispies et le galette de riz, c'est Adama. C'est ça? Alors, rien que pour savoir tout ça, vous avez toute une encyclopédie de brachot. Il vous faut tout un livre. Il y a plein de livres aujourd'hui, avec des photos, sans photos, avec des explications. Mais il faut l'étudier. Et la Gemara te dit, si tu apprends ça, tu deviens un homme pieux. Ça veut dire une femme pieuse. Moti. Moti. C'est ça. Pourquoi? Parce que il est là. Il est frit, mais il est là. Je le vois, c'est du pain. C'est du pain doré. C'est ça, si c'est mezonote. Mais normalement, les gens font avec la challah qui le reste, des choses comme ça, ça devient, ça reste mouti. Il faut faire attention à des croutons de pain. C'est pas des croutons normaux qui viennent d'Israël, le tidibit. C'est des croutons de pain qui coupent et ils mettent ça dans la salade. Des fois, ils mettent ça dans la salade, tout ça. Il y a des compagnies qui le font mezonote. Mais il y a des autres compagnies qui le font mouti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du pain vieux, séché, ils le coupent, ils le mettent. Mais c'est un mouti. Non, c'est pas vrai. Le pain à la taille d'une graine de sésame, c'est un moti. J'ai envie de manger du pain. Je vais rien que le goûter. Je prends un petit morceau de la croûte à la taille d'une sésame. C'est moti. La seule chose, je n'ai pas besoin de faire netilat yadayim. Parce que netilat se fait à partir de 30 grammes. Comment? Non, il n'y a pas de birkat. Birkat, la bracha de netilat yadayim et birkat Amazon, ça commence à partir de 30 grammes. Même netilat yadayim avec bracha, je ne peux pas dire sur le pain tant que je ne consomme pas 58 grammes minimum. Je fais netilat sans bracha. Non, pas besoin de kazaït. Vous goûtez, je vous dis, la taille, sésame, c'est pas grand. Une lentille, si vous voulez. Une lentille de... Quand vous prenez une pomme et vous prenez un petit morceau, c'est, qu'est-ce que bracha vous faites? Et vous prenez une tomate, un petit morceau, c'est Adama. Le motzi, c'est motzi. Alors, du pain qui a été coupé en petits morceaux, en petits cubes, pour faire dans une salade, c'est un motzi.
Alors, vous mangez tout. On fait rien que la prière du motzi.
Oui, si vous voulez. Oui, si vous voulez, mais il faut faire un motzi. Si c'est un motzi, je ne sais pas. Il y en a qui sont un motzi, il y en a qui sont maisonnantes. Mais il faut regarder toujours sous le sachet, il faut toujours lire. La meilleure des choses, c'est... Maintenant, Baruch HaShem, il y a de plus en plus beaucoup de compagnies qui commencent à mettre le brachot sur le boîte. Sur le boîte, sur le... Si vous achetez surtout le produit d'Israël et les produits d'États-Unis. Le seul problème, si vous achetez des produits d'États-Unis, les céréales, vous avez un sticker jaune. Il vous dit, selon ce rabbin, c'est de bracha. Selon ce rabbin, là, tu as trois brachot. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais comme on dit, c'est le harav. Fais-toi un rabbin. Tu dis, ok, je suis celui-là. Alors, toujours quand tu vas manger ce céréale, tu fais ce bracha. Et pour vous dire que c'est pas compliqué. Il faut rien qu'étudier. Il faut rien qu'étudier. Mais on a la chance de le pratiquer durant Tu Bishvat. Tu Bishvat, on va remercier Hachem pour la création qu'il a fait, qu'il va faire. C'est l'été Bezrat Hashem qui s'en vient. Et là, on va remercier Hashem pour tout le fruit qu'il va donner, en espérant que ça va être de bons fruits. Alors, le Harizal dit minimum 30 fruits. Maintenant, regardez. Une fois qu'une personne a fait une beracha, une bénédiction, elle ne peut plus faire la même. Ça veut dire, si j'ai 30 fruits à table, je suis seul. J'ai 30 fruits à table. On va dire, j'ai 15 et 15. J'ai 15 fruits qui viennent de l'arbre, 15 fruits qui viennent de la terre, comme des noix de cacahuètes, des cacahuètes, tout ça. Une fois que j'ai fait à Etz, je ne peux plus faire la bracha sur le reste. Si j'ai des raisins, des olives, des kiwis, je ne peux pas faire la bracha rien que sur un seul fruit. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Oui, mais eux ici, ils veulent une bracha. Eux aussi, ils vont être tous jalouses de la date ou de l'olive. Ça? Ils vont dire, pourquoi tu as fait la bracha sur eux? Nous aussi, on voulait une bracha. Alors, qu'est-ce qui arrive tout Bishvat? On essaie de se rassembler dans des grands groupes. Et qu'est-ce qui arrive? On donne à chaque personne la chance de faire une bracha. Maintenant, il y a 15 Etz, mais il y a 15 personnes. À chacun, tu vas donner un fruit différent. Alors, quand la personne a fait la bracha de Etz, tout le monde écoute et répond Amen. Là, lui, il a fait sur, par exemple, l'olive. Il a fait à Etz, tout le monde a répondu Amen. L'olive a eu sa bracha, tout le monde a répondu Amen. Après, lui... Dans son assiette, il a de l'olive déjà. Les autres, ils prennent l'olive et ils le mettent dans leur assiette, sans manger d'abord. Le deuxième, on lui va lui donner la date. Alors, il va faire boré priaïs, c'est un bracha, mais sur la date. Tout le monde va en prendre la date, mais ils ne vont pas la goûter, parce qu'ils doivent faire une bracha. Ils vont le laisser dans leur assiette. Après, le troisième, on lui donne le raisin. Alors, il va faire aïs. Et tout le monde prend le raisin, ils le mettent dans leur assiette, sans manger. Et comme ça, on fait le tour de la table. Chacun, il va dire une bracha. À la fin, chaque fruit à table, il aura une bénédiction. Ça, c'est si on se ramasse en grand groupe. C'est pour ça qu'on préfère de le faire. Bérovin, avec beaucoup de personnes, à table, chacun, il fait un bracha, ça élève, ça donne une élévation à ses fruits. Comme je vous ai dit, selon le Kabbalah, il y a plein de âmes qui sont réincarnées dans ces fruits. Ils attendent que ça. Ils attendent le jour ça. Il y a deux occasions à l'année. Tu Bishvat et le mois de Nissan. Le mois de Nissan, ici, c'est pas toujours, mais en Israël, déjà, à Nissan, Pessah, ils ont la chance de faire ce qu'on appelle Birkat Ha'ilanot. La bracha des arbres. On sort, et dès qu'il y a du bourgeon, on remercie Hachem pour mettre les bourgeons sur l'arbre. Dans des pays comme Israël et tout ça, on fait la bracha.
Quand on est en groupe, vous avez fait la bracha sur un fruit, nous, il faut qu'on refasse une autre bracha
sur un autre fruit. Un autre. Mais vous ne mangez pas celui-là. Par exemple, s'il a fait sur la date, vous n'allez pas le manger la date. Vous allez la prendre, vous allez la mettre dans votre assiette. Ça? Sans la manger. Parce que vous ne pouvez pas la manger. Si vous la mangez, vous faites une bracha, c'est la même.
Non, mais si vous avez fait la bracha, vous la refaire aussi?
Non. Si vous avez fait sur la date, et on continue, le raisin, le kiwi, alors vous, vous avez droit déjà de manger. Vous, vous avez droit de, parce que vous avez fait la bracha. Alors vous avez droit de pas seulement mettre devant des assiettes, manger. Mais celui qui n'a pas encore fait une bénédiction, il doit attendre, il doit rien ramasser dans son assiette. À la fin, tout le monde va arriver. La même chose, c'est ça? Mais ça donne la chance de faire une bracha. Il y a le vin. On va faire la bracha sur le vin blanc et le vin rouge. Ça? Il y a le maisonnote, il faut faire maisonnote. Maisonnote, on peut faire tous ensemble. Chacun prend le gâteau, un différent gâteau, et s'il y a table, on fait maisonnote, on fait tous. Mais c'est les fruits, l'essentiel. Et Sadama. Et là, ça, il y a une grande élévation qui se fait aux fruits, mais comme je dis, il faut le faire en groupe. Attachem, vous êtes tous invités le lundi, c'est ça, dimanche prochain. Dimanche prochain, on le fait ici à 7h. Mais je suis sûr que là où vous êtes, si vous ne venez pas ici, vous... Il y a, normalement, les communautés, ils aiment faire ça parce que ça donne la chance à se rassembler, à faire le bénédiction. C'est très important.